Ce fut à l'école déjà qu'on fit de nous des concurrentes. On se regardait chien et chat, on détestait les redoublantes. Souffre-douleur ou bien faillotte, on se poussait toujours plus haut. On s'arrachait les bonnes notes, on pleurait devant le tableau. On aurait pu rester Frangine, ça nous aurait gagné du temps. Au coude à coude, j'imagine qu'il n'aurait pas fallu longtemps pour qu'on soit toutes aussi bonnes, malgré les pionnes et les parents. Ensuite, en face des garçons, commença la grande offensive. On se fabriquait des façons, des rendez-vous sur l'autre rive. Et grande bringue ou blanche neige, c'était à qui amènerait tous les boutonneux du collège à l'accompagner sur le quai. On aurait pu rester Frangine, ça nous aurait gagné du temps. Bras dessus dessous, j'imagine qu'on aurait de ces débutants avant que la vie les assomme, pu faire des hommes, pas des enfants. Un peu plus tard, c'est la beauté qu'on nous érigea en barrière. On se retrouvait insulté si on n'était pas la première. Nos amitiés faisaient sourire, fallait nous crêper le chignon. Et tout ce qu'on pouvait se dire n'était que fadaise ou chiffon. On aurait pu rester Frangine, ça nous aurait gagné du temps. Main sur l'épaule, j'imagine qu'on aurait pu, se regardant, voir qu'on était toutes assez belles, et même celles qui ont pas. Pareil dans nos métiers, on nous oppose et on nous monte en épingle pour mieux montrer qu'on se trouve en dehors du compte. Pour peu qu'on dépasse la tête, on est toujours une exception, chacune sur notre planète, ce qu'on a pu tourner en rond. Si on se retrouvait Frangine, on n'aurait pas perdu son temps. Unissant nos voix, j'imagine qu'on en dirait 20 fois autant et qu'on ferait changer les choses, et je suppose aussi les gens, et qu'on ferait changer les choses. Allez, on ose, il est grand temps.
Radio Libertaire 89.4. Radio Libertaire, c'est la radio sans Dieu ni maître et sans publicité. Vous pouvez donc, pour aider à financer Radio Libertaire, aller à la librairie Publico au 145 rue Amelot. Vous avez plusieurs métros, République, Oberkampf ou Filles du Calvaire. Et là, vous pourrez acheter une carte d'auditrice ou d'auditeur. Et comme chaque mardi, de 12h30 à 14h30, vous êtes à l'écoute de l'émission Remue Ménage Féministe, une émission qui se propose de faire découvrir le foisonnement et la richesse du féminisme. Si vous souhaitez nous joindre pendant les pauses musicales de préférence, eh bien, vous appelez le 01 43 71 89 40. Et vous pouvez aussi réécouter nos émissions, toutes nos émissions depuis l'année 2019, en allant sur le Mixcloud de Remue Ménage Féministe et sur les Blogspot, celui de Remue Ménage Féministe et celui des Saxifragettes. Nous sommes aujourd'hui le mardi 8 octobre 2024 et au programme de ce mardi, nous allons nous intéresser aux compositrices en musique classique et découvrir des œuvres de compositrices souvent oubliées et trop peu jouées. Et c'est Sylvie qui sera là pour vous donner tout plein d'informations et vous faire écouter beaucoup de musique.
En effet, le métier de compositeur se conjugue principalement au masculin. Pourtant, les femmes ont été nombreuses à composer, et ce, bien avant le XXIe siècle. Longtemps tolérées aux marges de cet art, elles ont été progressivement délégitimées au point de disparaître de la mémoire collective. Les compositrices peinent encore à faire leur entrée dans l'histoire de la musique, à quelques exceptions près. Et quand on parle de musique classique, particulièrement de compositeurs et de chefs d'orchestre, on entend surtout des noms d'hommes. En fait, on n'entend pratiquement que ça. Mais pourquoi ? Les femmes qui composent de la musique sont aussi anciennes que la musique. La première femme compositrice serait Sappho, la poétesse grecque qui a vécu au VIe siècle avant notre ère et qui accompagnait ses textes à la lyre. Malheureusement, aucune de ses partitions ne nous est parvenue. Et savez-vous quel est le pourcentage de compositrices jouées en France aujourd'hui ? Eh bien seulement 4%. Et en l'absence de modèles issus des générations précédentes, il semble difficile que les femmes aujourd'hui puissent identifier clairement compositeur comme un métier accessible aux femmes. Alors pour en parler, j'ai choisi 24 femmes aléatoirement dans l'histoire des compositrices. Plus de 5000 pourraient nous en vouloir de ne pas les avoir citées. En effet, elles sont actuellement plus de 5000 à avoir été recensées par la base de données Women in Music. Alors parce que oui, des compositrices, il y en a eu, il y en a et il y en aura toujours. Et si la plupart ont été oubliées, reléguées au néant car jugées sans valeur, certaines sont parvenues jusqu'à nous. Alors commençons notre balade au pays des compositrices au Moyen-Âge par Cassia de Constantinople, qui a vécu au IXe siècle dans l'Empire byzantin. C'est la première compositrice occidentale que l'on peut entendre aujourd'hui, car ses partitions ont été conservées et c'était une abbesse byzantine. Donc je vous propose d'écouter Hyper Ton Elinon, donc composé par Cassia et interprété par l'ensemble Vocamé. Le Moyen-Âge est aussi marqué par la figure d'Hildegard von Bingen, qui a vécu entre 1098 et 1179, une importante figure du XIIe siècle dont les écrits et les partitions ont survécu jusqu'à nos jours, et qui n'était pas seulement une compositrice, mais aussi une abbesse, une guérisseuse, une visionnaire, une poétesse et une prophétesse. Elle a fondé deux monastères en tant qu'abbesse bénédictine et son morceau Ordo Virtutum, qui est l'une de ses compositions et est la plus ancienne pièce de moralité du monde, est encore conservée. Alors nous allons l'écouter, interprétée par Catherine Bralavski et Joseph Rove.
Vite, omnis creature. Feci da vulnera.
Nous arrivons à la Renaissance et nous allons faire la connaissance de Maddalena Cassulana qui a vécu au XVIe siècle, la première femme à se déclarer compositrice et qui publie de la musique à son nom. Elle chante, joue du luth et compose des madrigaux et elle dédicace son premier livre de madrigaux à Isabelle de Médicis en ces termes. « Je veux montrer au monde, autant que je le peux, dans cette profession de musicienne, l'erreur que commettent les hommes en pensant qu'eux seuls possèdent les dons d'intelligence et que de tels dons ne sont jamais donnés aux femmes. » Alors nous allons écouter par l'ensemble « Laus consentus ».
Thank you.
À Bologne que naît Lucrezia Orsina Vizzana en 1590. Elle apprend la musique au sein du couvent de Santa Cristina et voit ses motets publiés en 1623. Ils évoquent les jours de fête dans les couvents, le Christ rédempteur, sauveur ou époux, et même les conflits bureaucratiques qui se déroulaient au sein du couvent de Santa Cristina. Donc écoutons Sonnette Vox Tua Procter Noster, composé par Lucrezia Orsina Vizzana et interprété par Capella Artemisia.
Radio Libertaire 89.4. Vous êtes à l'écoute de l'émission Remue Ménage Féministe, comme chaque mardi, de 12h30 à 14h30. Et pour ce mardi 8 octobre, eh bien, Sylvie nous a et vous a concocté une émission autour des compositrices en musique classique pour vous faire découvrir des œuvres de ces compositrices souvent oubliées et trop peu jouées. Alors jusqu'à présent, vous avez pu entendre des compositrices du Moyen-Âge, de la Renaissance féminine, 15e, 16e siècle. Et maintenant,
nous arrivons au grand siècle des compositrices, le XVIIe siècle, avec Leonora Duarte, 1610-1678, une compositrice et instrumentiste de talent dans l'Anvers baroque, Anvers la ville. Il ne nous reste malheureusement que peu de partitions écrites par Leonora Duarte, à peine une série de fantaisies qu'elle appelait des symphonies, des symphonia, et je vous propose d'écouter la numéro 7, par l'ensemble Castello Consort. Je vous propose maintenant d'écouter Barbara Strozzi. Elle voit le jour en 1619 à Venise et à 15 ans, on la surnomme la virtuosissima cantatrice di Giulio Strozzi, qui est son père, un célèbre poète et librettiste. En 1644 paraît son premier livre de madrigaux, dédié à la grande duchesse de Toscane. Et dans l'introduction de son ouvrage, elle écrit « Première œuvre que moi, en tant que femme, je propose anxieusement au grand jour ». Et après le décès de son père, elle va publier plus de 100 compositions exclusivement pour voix et continuo. Donc je vous propose d'écouter Il Contrasto de Cinque Sensi par l'ensemble NYS baroque et composé par Barbara Strozzi. Yeah.
mia, talora come cielo un picciol vaso, poco poco tra.
Maintenant, nous allons écouter Élisabeth Jacquet de la Guerre, 1665-1729, une Française, une claveciniste remarquée par Louis XIV, une compositrice talentueuse de sonates, oratorios et opéras. C'est la grande musicienne du grand siècle. C'est une enfant prodige, fille de musicien, et elle se forge un renom à la cour de France grâce à ses talents de compositrice et d'interprète. Et le Parnasse français relate « Le roi éprouve un vif plaisir à l'entendre au clavecin, ce qui motiva Madame à la garder durant 3 ou 4 années pour se divertir de la manière la plus agréable et d'enchanter toutes les personnes de la cour lui rendant visite. Ce fut là une tâche dont la jeune demoiselle s'acquitta avec grand succès. » Elle est la première compositrice à avoir joué son opéra Céphale et Procris à l'Académie royale en 1694. Et là, nous allons l'écouter dans une de ses compositions, La Tempête, issue de la cantate Le Sommeil d'Ulysse, et interprétée par la mezzo-soprano Margarita Stepakova.
Thank you.
Alors nous arrivons au XVIIIe siècle. Est-ce que c'est aussi le siècle des Lumières pour les femmes ? Alors si les femmes compositrices, musiciennes et chanteuses sont de plus en plus nombreuses, elles sont encore souvent organistes, clavecinistes, jouent de la harpe ou de la viole. Mais quelques-unes composent des sonates et à la fin du siècle, certaines s'emparent du piano et composent des symphonies. La française Hélène de Montgeroux, 1764-1836, est le premier professeur femme au Conservatoire de Paris, à défaut d'être connue compositrice, et est une excellente interprète de piano forte. Exceptionnelle improvisatrice, grande pédagogue, elle compose, mais on préfère se souvenir d'elle comme d'une enseignante, rôle qui convient mieux aux femmes, n'est-ce pas ? Alors son cours complet en 771 pages pour l'enseignement du piano forte devient une référence et inspirera les compositeurs romantiques, notamment parce qu'elle met l'accent sur le chant, et ses œuvres ont été plagiées sans que son nom ne soit cité. La marquise de Montgeroux est noble et la légende raconte qu'elle aurait réussi à échapper à la guillotine pendant la Révolution en improvisant sur la Marseillaise devant le tribunal révolutionnaire. Alors nous allons écouter son étude numéro 111, interprétée par Teddy Papavrami et François Frédéric. Alors Marie Bigot de Morogues, qui est née à Colmar en 1786 dans une famille de musiciens. Sa famille s'établit en 1791 en Suisse et c'est là que Marie Quiénet fait à 16 ans ses débuts de concertiste. Elle y épouse Paul Bigot de Morogues, ils ont deux enfants et s'installent à Vienne. Marie se fait rapidement connaître comme une exceptionnelle pianiste. Et il s'installe à Paris en 1809 et là, elle se fait aussi rapidement connaître comme interprète de Bach, Mozart et Beethoven. Et en 1816, Félix et Fanny Mendelssohn font partie de ses élèves. Elle laisse à son décès en 1820 à Paris un corpus d'œuvres réduit qui témoigne de sa connaissance approfondie du style classique. Nous allons écouter le quatrième mouvement de sa sonate opus 1 avec au piano Jean-Yves Serrault.
Thank you.
Nous venons d'écouter le quatrième mouvement de la sonate opus numéro 1, composée par Marie Bigot de Morogues. Alors nous allons ensuite découvrir Sophie Gell, née Gare, qui est née en 1775 à Paris. Elle apprend le piano et le chant, pratique l'improvisation et publie des romances dès 1790. Elle se livre pleinement à sa carrière après son divorce en 1801. Elle écrit 5 opéras comiques dans les années 1810. En 1816 et 1818, elle se produit en tournée à Londres et en Allemagne, où elle exécute elle-même les romances de sa composition, qui remportent un vif succès. Il faut dire que Sophie Gell avait reçu une formation solide et s'était mise après son mariage à l'étude théorique auprès de professeurs comme l'Autrichien Nocom Pern, le spécialiste des compositions d'inspiration. Elle travaillait à de nouveaux ouvrages lorsqu'elle succombe à une maladie pulmonaire le 24 juillet 1819 à 43 ans. Et Adrien de Lafage l'a saluée encore en 1847 comme la seule compositrice qui avait obtenu au théâtre un véritable succès. Alors nous allons écouter Mélisse de Villoutrès soprano et Clara Isambert à la harpe jouer N'est-ce pas d'elle, composée par Sophie Gell.
N'est-ce pas d'elle que je vous parle à chaque instant? Et bien c'est d'elle que je veux parler plus souvent. Tout rempli d'elle, au moindre son, j'entends sa voix. Si je cours au milieu des bois, c'est ta présence, c'est ta présence. C'est toujours elle que je crois voir dans mon sommeil. C'est encore elle que je le trouve à mon réveil. Quand on vient près d'elle, mon cœur s'enivre de plaisir. Elle pense et chante son désir. Tout est pour elle, tout est pour elle. L'éloigne d'elle est toujours nouvelle douleur. M'approcher d'elle est toujours courage exister un seul jour. Si quelqu'un a fixé l'amour, oh, c'est bien elle, oh, c'est bien elle.
Eh bien, vous venez d'écouter une composition de Sophie Gell, qui était née en 1775, qui est décédée en 1819. Et c'était interprété par Maëlys de Villoutrès, une soprano, et Clara Isambert à la harpe. Donc elle jouait N'est-ce pas d'elle, de Sophie Gell. Et ces compositrices, dont Sylvie vous parle depuis maintenant plus de trois quarts d'heure, plus de trois quarts d'heure, eh bien, c'est dans l'émission Remue Ménage Féministe sur Radio Libertaire 89.4.
Alors nous arrivons au 19e siècle. Des salles de concert et de théâtre s'ouvrent au grand public. Les chanteuses et cantatrices sont de plus en plus nombreuses, ainsi que les compositrices qui s'essaient à tous les genres. Mais si les compositrices sont plus nombreuses, ce n'est qu'en 1913 qu'une femme, Lili Boulanger, obtient pour la première fois le prix de Rome de composition musicale. Alors nous allons écouter Louise Farinck, qui est née à Paris en 1804 et décédera aussi à Paris en 1875. C'est une figure majeure de la musique à Paris au cours du 19e siècle. Louise Farinck est née Dumont en 1804, issue d'une longue lignée d'artistes. C'est une enfant prodige. Elle a reçu très tôt des leçons qui ont fait d'elle une pianiste accomplie. Et à l'âge de 15 ans, elle commençait à prendre des leçons avec Anton Reicha, un professeur de composition au conservatoire. Après son mariage, elle interrompt ses études afin de donner des concerts avec son mari, le flûtiste Aristide Farinck. Et bien qu'elle soit une brillante interprète et compositrice, pendant près de 10 ans, elle est moins bien payée que ses homologues masculins. Et ce n'est qu'après le grand succès de la première de son Nonette pour vent et cordes qu'elle a exigé et finalement obtenu l'égalité de rémunération. Alors avec ses œuvres, Louise Farinck est considérée comme un des pionniers de la musique de chambre française du 19e siècle et elle a obtenu à 2 reprises les prix de composition décernés par l'Académie des Beaux-Arts. Alors, nous allons écouter, composé par Louise Farinck, la finale, un allegro de la symphonie numéro 3 par l'orchestre Insula Orchestra.
Thank you.
Donc Louise Farinck, la symphonie numéro 3, la finale, dirigée par Laurence Equilbet. Alors maintenant, nous allons écouter Clémence de Grandval, née de Récette dans la Sarthe en 1828 et décédée à Paris en 1907. Elle aurait composé dès l'âge de 10 ans des œuvres symphoniques qu'elle dirigeait elle-même. Elle est pour le piano élève de Chopin et son mariage en 1851 avec Amable de Grandval ne freine pas sa vocation. Elle étudie alors la composition avec Camille Saint-Saëns et également cantatrice, elle interprète ses mélodies en concert et en a laissé plus d'une soixantaine. Elle compose de nombreuses œuvres de musique de chambre avec piano et sa production symphonique est importante. Elle connaît le succès dans le domaine de la musique sacrée et elle reçoit le prix Rossini en 1880 pour son oratorio La fille de Jaïr et le prix Chartier en 90 pour sa musique de chambre. Mais l'on déplore la disparition quasi totale des partitions d'orchestre de sa production, ce qui rend impossible une reconnaissance de ses œuvres symphoniques et lyriques. Alors je vous propose d'écouter, composée donc par Clémence de Grandval, 4 pièces pour corps anglais, une valse interprétée par The Orchard Enterprise. Venons d'entendre 4 pièces pour corps anglais par la compositrice Clémence de Grandval. Et maintenant, nous allons nous intéresser à Pauline Viardot, née Garcia à Paris en 1821. Elle y décédera en 1910. Elle naît dans une famille de musiciens et musiciennes d'origine espagnole et elle apprend jeune le piano. Chopin et Liszt loueront son talent. Elle devient à l'adolescence élève de composition d'Anton Reicha en cours privé, mais interrompt ses études malgré son désir de devenir pianiste, car elle est conduite par sa mère, sa professeure de chant, à embrasser une carrière de cantatrice, devenant comme sa sœur une célèbre diva. Et dès 1843, elle se fait remarquer par la publication d'un album vocal qui, par ses formes et la qualité de la partie de piano, la place à l'avant-garde du genre de la mélodie. À partir des années 1860, qui voit la fin de sa carrière de cantatrice, elle intensifie sa production et laissera près de 300 œuvres, essentiellement des pièces vocales avec piano, qui la placent parmi les meilleurs compositeurs de mélodies du XIXe siècle. Elle compose aussi plusieurs opérettes qui permettent à ses élèves de s'initier à l'art lyrique et je vous propose d'écouter par le quatuor Giardini, Cendrillon, je viens te rendre à l'espérance.
Petit cœur qui danse,
Nous ne pouvons pas ne pas évoquer les femmes compositrices dans l'ombre des hommes au XIXe siècle. Schumann, Mahler ou Mendelssohn, trois noms bien connus du grand public. Mais derrière ces noms, on trouve aussi les prénoms de trois femmes qui composaient, Fanny, Clara et Alma. Trois compositrices dont les œuvres peinent, elles, à sortir du cénacle des mélomanes et à contrario de celles de leurs frères et époux. Alors Fanny Mendelssohn, 1805-1847, Clara Schumann, 1819-1896 et Alma Mahler, 1879-1964. Ces trois femmes talentueuses se sont effacées devant les diktats de la société qui leur imposait le rôle d'épouse ou de mère et ne leur permettait pas de se faire remarquer en tant qu'artistes. Au XIXe siècle, l'idée que les femmes puissent composer de la musique paraît alors peu concevable. Or, à cette période, les compositrices de musique classique sont de plus en plus nombreuses. Alors, Fanny Mendelssohn, c'est la grande sœur de Félix Mendelssohn. Il est impensable pour elle de devenir compositrice. Son père le lui dit clairement. La musique deviendra peut-être pour Félix un métier. Pour toi, elle doit rester un agrément. Quelques-unes de ses compositions sont signées par son frère, mais le reste, elle doit le réserver à son cercle privé jusqu'à ce qu'elle ose braver l'interdiction de Félix et publier certaines de ses œuvres un an avant sa mort. Donc je vous propose d'écouter Ensel September at the River par la pianiste Sarah Rothenberg et composée par Fanny Mendelssohn. Alors, Clara Schumann est la femme de Robert Schumann. Son père, professeur de piano, lui enseigne cet instrument. Ses talents de pianiste sont reconnus dans de nombreux pays de son vivant et elle donne de nombreux concerts dans toute l'Europe dans lesquels elle interprète les compositions de son mari. trop prise par ses occupations familiales, est obligée de délaisser sa carrière d'interprète et de compositrice. Elle finira par écrire « Une femme ne doit pas prétendre composer. Aucune encore a été capable de le faire. Pourquoi serais-je une exception ? Il serait arrogant de croire cela. C'est une impression que seul mon père m'a autrefois donnée. » Or, après la mort de son mari, Clara assume seule son autonomie financière et mène une carrière internationale. Alors, nous allons écouter Caprice à la Boléro, parmi les pièces caractéristiques de l'opus 5, numéro 2, par Joseph D. Ben-Hur. Alma Mahler, quant à elle, compose dès l'âge de 8 ans, mais à l'exemple de l'épouse dévouée et effacée, la femme de Gustav Mahler, directeur de l'opéra de Vienne, et quand elle le rencontre, c'est la passion de la musique qui les rapproche. Mais dès ses fiançailles, il lui annonce ce qu'il attend d'elle. « Tu n'as désormais qu'une profession, me rendre heureux. Tu dois te donner à moi sans condition. Tu dois soumettre ta vie future dans tous ses détails à mes besoins et ne rien désirer que mon amour. » Ainsi, ses ambitions tournent court et dans la 8e symphonie, il va même éditer sous son nom des lieder composés par Alma avant son mariage. Alors nous allons écouter une des 5 chansons composées par Alma Mahler. Avec nous, c'est triste. Une compositrice maintenant de la fin du 19e siècle, née en 1847, Augusta Holmès, qui est une des premières femmes jouées à l'Opéra de Paris, compositrice mais aussi poétesse. Augusta Holmès a connu la gloire en son temps avant de tomber dans l'oubli après sa mort en 1903. C'est la symphoniste française la plus prolifique avec 25 pièces dramatiques pour orchestre. Elle suit les cours de César Franck et est admirée par Rossini, Mallarmé, Rodin, Renoir, etc. Et elle a composé un des chants de Noël les plus célèbres, repris entre autres par Tino Rossi, « Trois anges sont venus ce soir », et certaines de ses œuvres nécessitaient plus de 300 musiciens sur scène et un chœur de 900 chanteurs et chanteuses. Elle a écrit des symphonies à la gloire de la France, et en effet, née d'une mère anglaise et d'un père irlandais, elle vouait un amour pour son pays natal, la France. Je vous propose d'écouter les 3 Serpentesses, alors interprétées par la mezzo-soprano Fiona McGowan et la pianiste Celia Onetto Ben Saïd. Donc les 3 Serpentesses d'Augusta Holmès.
Serpente aux bras si blancs, nus et tout.
Nous passons à Marie Jaël, 1846-1925, une pianiste, compositrice, chercheuse et pédagogue, connue et reconnue en son temps. Donc nous allons écouter le concerto pour violon, interprété par l'Orchestre Philharmonique de Bruxelles.
89.4. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Remue Ménage Féministe qui aujourd'hui sort de l'oubli des femmes compositrices et musiciennes.
Alors nous arrivons au XXe siècle, celui de la modernité et de l'émancipation. Alors, avec Cécile Chaminade, qui est née à Paris en 1857, et elle a écrit plus de 400 œuvres, fait des tournées dans le monde entier, mais elle meurt presque oubliée en 1944, et elle dit dans une interview « Le mariage doit s'adapter à la carrière. Quand il s'agit d'un homme, tout cela est entendu et prévu. Mais s'il s'agit d'une femme, cela dérange les normes, les conventions, les accommodements habituels, et de façon générale, cela détruit l'art de la femme. Bien que j'ai été mariée et que je sois veuve aujourd'hui, je crois qu'il est difficile de concilier vie domestique et vie artistique. Une femme devrait choisir l'une ou l'autre. » Alors je vous propose d'écouter Mignonne sur un poème de Pierre Ronsard interprété par Claire-Antoine et Moïka Ueno et composé par Cécile Chaminade.
Sa plus verte nouveauté.
Alors, nous ne pouvons pas ne pas évoquer Mélanie Bonis, 1858-1937, autrice d'environ 300 œuvres. Pianiste autodidacte, elle fait partie des rares femmes à avoir fréquenté au cours des années 1880 les classes d'écriture du conservatoire. Et dès cette période, elle associe le diminutif de son prénom et son nom de jeune fille pour signer ses partitions, laissant ainsi planer un doute sur le genre de leur auteur. En effet, elle est connue sous le nom de Mel Bonis et non pas de Mélanie Bonis. Alors nous allons écouter Los Ritanos, un opus, l'opus 15 2 à quatre mains, interprété par Laurent Martin et Claudine Simon et composé par Mel Bonis. Venons d'entendre Los Ritanos, composé par Mel Bonis, et nous allons écouter Solitude de Rita Stroll, qui est née à Paris en 1865. C'est une compositrice prolifique et son catalogue est très varié. À 19 ans, elle compose un trio. À 26 ans, son quatuor avec piano, puis suivent des messes, des symphonies, des mélodies et de grandes fresques lyriques. Donc Rita Stroll, Solitude, avec Héloïse Luzzatti au violoncelle et Celia Onetto, Ben Saïd au piano. Alors pour finir cette promenade au pays des compositrices, les compositrices d'aujourd'hui, celles du XXe et XXIe siècle, une période charnière qui voit arriver un foisonnement bien plus important de compositrices, du bruitisme à la musique d'orchestre, qui suivent alors la voie de la musique concrète, et c'est un constat qui permet d'aller à l'encontre des stéréotypes associant technique et masculinité. Alors je vous propose d'écouter Sivan Eldar, qui est né en 1985 en Israël, et elle a composé Una Mujer de Ramada, c'est-à-dire une femme renversée. Voilà, c'est une composition avec Amira Leon. Alors maintenant, je vais vous proposer un concerto pour horn, corps et percussions. J'ai un doute sur la traduction de horn. Donc par Maya Badian, qui est née en 1945 à Bucarest et est une compositrice, musicologue et professeure canadienne d'origine roumaine, qui a commencé à composer à l'âge de 5 ans et qui a publié plus de 120 compositions, ainsi que des ouvrages de musicologie et de pédagogie. Donc nous allons dans ce concerto écouter le prélude funèbre. Cette promenade qui a démarré du Moyen-Âge et qui arrive à nos jours au pays des compositrices, je vous propose de laisser la conclusion à Betsy Jolas, qui a décroché la Victoire de la musique 2021, mention composition, et qui dit lors d'une longue interview donnée en 2017 à France Musique, « Je suis née le 5 août 1926 à Paris et je suis compositrice. Et pourtant, ce mot de compositrice n'a pas été facile à dire au début de ma carrière. Comme beaucoup de femmes, je me disais que je ne pouvais pas être compositeur. Quant à être compositrice, comment dire ? Je ne voulais pas dire compositrice. Compositeur, surtout pas. Compositeur femme, c'était grotesque. On va dire que Pierre Boulez est un compositeur homme. Il n'y a pas si longtemps que j'ai admis que j'étais une compositeur femme. » Alors, nous allons écouter en générique de Betsy Jolas son Quatuor 7 After Suits pour trompette et cordes. Mais avant, je vous donne le programme du mardi prochain, qui sera le 15 octobre. Le sujet, c'est la guerre d'Algérie. Quand les femmes algériennes se mobilisent au lendemain de la répression sanglante de la manifestation du 17 octobre 1961 pour boycotter un couvre-feu discriminatoire, la Fédération de France du FLN organise le 17 octobre 1961 une large manifestation dans la capitale. La mobilisation est voulue pacifique, toute arme étant strictement interdite, mais la manifestation est rapidement et durement réprimée par la police parisienne. Lors de cette nuit sanglante, au moins 12 000 Algériens ont été arrêtés et au moins 120 ont été tués. Les estimations de certains historiens portant même le bilan à plus de 200 morts. Alors peut-être que Kadia, tu veux dire quelques mots sur ce programme ?
Quelques mots, non pas plus. Ce que je voulais peut-être insister, c'est quand les femmes algériennes, entre guillemets, parce que... Et puis quand on parle aussi des Algériens lors de cette manifestation, il faut savoir que l'Algérie n'était pas encore indépendante à cette époque-là, et donc on parlait des Français musulmans d'Algérie. Donc ce terme d'Algérienne, c'est entre guillemets, le terme d'Algérien, c'est entre guillemets. Effectivement, ils ont été arrêtés, plus de 120 tués. Les estimations de certains historiens portant même le bilan à plus de 200 morts, et je citerai Jean-Luc Enaudi, qui a écrit un livre sur ce 17 octobre 1961, Papon, le préfet qui était en place à ce moment-là, a porté plainte et diffamation. Il y a eu un procès particulièrement important et Jean-Luc Enaudi a été blanchi, on va dire, pas de diffamation, puisque même au cours de ce jugement, il a même été énoncé plus de 300 morts. Et ça, donc ce sera la semaine prochaine avec Monique Dantal et peut-être d'autres invités. Et donc maintenant, nous allons nous quitter. Donc Sylvie, tu peux nous redire ?
Alors nous allons nous quitter avec Betsy Jolas et son quatuor After Thoughts pour trompette et cordes, avec à la trompette Fabien Norbert, au violon Caroline Florenville, à l'alto Carole Roth-Dauphin et au violoncelle Amaryllis Jacques. Zic. Voilà, alors les femmes compositrices, hein, il y en a eu, il y en a, il y en aura toujours. Là, on l'a vu, j'en ai choisi 24, il y en a 5000 de recensés. Donc maintenant, quand on vous demandera de citer une femme compositrice, j'espère que vous aurez des noms à proposer. Voilà, Betsy Jolas. Quatuor numéro 7, After Thoughts.
Où vous direz, finalement, il y en a tellement que je ne peux pas les citer toutes. Donc, essayez d'aller les trouver vous-même. À la semaine prochaine. Au revoir.
Thank you.